Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Votre magazine audio en finances personnelles a récemment fait des captations devant public au Collège Montmorency de Laval pour la journée consacrée à la liberté financière organisée par Youssef Gelach, professeur de finances. Youssef est aussi chroniqueur en finances à mes côtés à l'émission Pénélope de Radio-Canada, ici première. Youssef va nous parler des objectifs de ses journées thématiques au Collège et aussi de son groupe Facebook « L'argent ne dort jamais » qui rejoint maintenant plus de 120 000 personnes. Notre deuxième invité est Jonathan Therrien, ancien étudiant du collège et maintenant planificateur financier et conseiller plein exercice en valeurs mobilières. Il raconte le parcours d'un étudiant qui a réussi à gravir tous les échelons et qui gère maintenant son propre bloc de clientèle en gestion de patrimoine. De plus, notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte l'origine des produits dérivés boursiers comme les options et contrats à terme. Sans doute des armes de destruction massive du capital dans les mains du téméraire, mais aussi des outils de protection formidable pour l'investisseur intelligent. Enfin, notre question du beau-frère vient de Jean-Philippe Duplateau. Est-ce que vendre tous ses placements au mois de mai est un bon conseil? Le balado Le Planif débute à l'instant.
D'où viennent les options et les produits dérivés en bourse? Vous savez, ces instruments financiers qui peuvent vous rendre riche en un clin d'œil ou vous ruiner tout aussi rapidement? Les options ont une histoire riche qui remonte à l'Antiquité. Les premières formes d'options ont été utilisées par les Grecs et les Romains pour sécuriser le prix des marchandises. On pouvait donc déterminer d'avance les prix des récoltes à venir sans en connaître la quantité exacte ou la qualité. Mais c'est en 1973 que le Chicago Board Option Exchange a été créé, marquant le début du marché moderne des options. Parlons chiffres. Saviez-vous que le marché des dérivés est estimé à plus de 1 quadrillion de dollars? Oui, c'est un 1 suivi de 15 zéros. En 2008, lors de la crise financière, Warren Buffett a qualifié les dérivés de bombes à retardement financière. Et il avait raison. Lehman Brothers, une banque d'investissement, a perdu des milliards à cause de paris risqués sur des dérivés, ce qui a contribué à son effondrement. Le tristement célèbre papier commercial est un instrument financier dit dérivé. Mais ceux-ci ne sont pas toujours synonymes de perte. Prenez l'exemple de Nassim Nicholas Taleb. Cet auteur est mathématicien et le conseiller scientifique du fonds spéculatif Universal Investments. Le 23 août 2015, lors du crash du marché chinois, Universa réalisa un gain de 20 % soit 1 milliard de dollars. Les options sont basées sur des formules mathématiques complexes, comme le modèle Black-Scholes, qui permet de calculer leur valeur en fonction de plusieurs variables, comme le prix du titre sous-jacent, le temps restant avant l'expiration et la volatilité du marché. Les dérivés, en général, utilisent des algorithmes et des modèles mathématiques pour évaluer les risques et les rendements potentiels, ce qui les rend à la fois fascinants et extrêmement dangereux.
Commencez la journée du bon pied en écoutant le balado Info Bref. Chaque matin, en 5 minutes, il vous donne l'essentiel des nouvelles nationales, internationales, économiques, technologiques et financières. Info Bref, c'est juste l'info qu'il vous faut avant d'aller travailler. Cherchez Info Bref dans votre application de balado ou allez à infobref.com.
Le balado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
Bienvenue au balado Le Planif, édition spéciale en direct du Collège Montmorency et notre prochain intervenant, Youssef Gelach. Bonjour Youssef.
Salut Fabien.
Ça va bien?
Super, et toi?
Oui, journée splendide, magnifique ciel bleu. On dirait que tous les astres sont alignés pour faire de cet événement de liberté financière un succès.
Oui, donc je suis très, très content. Les gens ont répondu présent. Et tout se passe bien.
Ouais. Alors, parle-nous un peu de ces journées que tu organises, parce que c'est pas la première en 2024.
Ouais. Donc, c'est la troisième édition. Puis l'objectif initial, c'était justement, c'était une idée un peu farfelue qui est de dire, ben, je vais rassembler les gens pour venir parler d'éducation financière, parler de liberté financière, parler d'investissement. Puis pour le grand public, généralement, il n'y a pas beaucoup d'événements, pour ne pas dire aucun, où on peut justement se déplacer en personne, venir serrer des mains. Il existe des webinaires en ligne, effectivement, mais venir vraiment échanger avec des gens qu'on suit sur Internet comme, ou qu'on écoute dans un balado comme toi, venir discuter avec des auteurs qu'on lit, des blogueurs, des professionnels. Et en une journée, on peut apprendre plein de choses. Donc,
c'est un dimanche, mais en même temps, on est en train de vénérer le dieu dollar aujourd'hui.
Oui, l'argent ne dort jamais.
Exactement. Ce qui m'impressionne, Youssef, il y a plein de choses qui m'impressionnent, ton parcours, mais aussi d'avoir lancé cette page qui est l'argent ne dort jamais. Maintenant, à près de 121 000 membres, un groupe privé Facebook. Comment on fait pour générer ça, autant d'abonnés?
Ben, je te dirais, ça a commencé de façon très embryonnaire avec la famille, avec mon entourage, avec des étudiants qui me suivaient sur la page pour suivre un petit peu l'actualité. Puis surtout, j'utilisais cette page-là pour partager de l'information sur les finances. Puis de fil en aiguille, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de contenu dans cette page-là. Et il y a eu la pandémie aussi qui m'a beaucoup aidé parce qu'on se rappellera, durant la COVID, il y avait les aides gouvernementaux. Les gens ne savaient pas comment se qualifier pour la PCU, les critères, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps durant le confinement pour partager ça. Et les gens aussi s'intéressaient beaucoup à l'investissement durant le confinement. Donc, les gens avaient des fois de l'épargne qui dormait dans leur compte, donc l'argent dort jamais toujours, et qui venaient chercher des sources d'informations ou qui voulaient savoir les moyens d'investir. Donc, à travers le groupe Facebook et des modérateurs, donc j'ai une équipe de modérateurs vraiment géniale qui participe, qui répond aux questions, et on essaie de garder le groupe le plus actif possible et le plus éducatif.
C'est bien. En tout cas, c'est fabuleux, toutes les ressources qu'on trouve justement sur la page, le groupe L'argent ne dort jamais. Au fil des ans, ça fait combien de temps maintenant que tu administres cette page?
Donc, c'est la cinquième année. Donc, j'ai créé ça en 2019 et on est passé de 0 à 120 000.
Wow! Et quels sont les sujets les plus porteurs de réactions ou peut-être d'engouement?
Bon, c'est sûr que ces dernières années, ça a été beaucoup les divorces, la gestion de l'argent en couple, la séparation de biens, évidemment. Après, c'est sûr que des fois, il y a des distorsions entre les locataires, les propriétaires, donc les propriétaires ou investisseurs immobiliers qui doivent gérer des locataires. Et d'un autre côté, on a les locataires qui ne veulent pas payer trop cher ou qui ont de la difficulté à se loger. Donc, je dirais le prix du loyer ou la fixation du prix du loyer, ça amène des fois des discussions un peu plus chaudes. Et sinon, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est évidemment l'investissement boursier. Puis c'est un peu le but aussi de la journée d'aujourd'hui, c'est de montrer que, ben, en fait, investir, on peut l'apprendre à le faire. C'est bien de s'entourer de professionnels, évidemment, pour le faire de façon intelligente, mais de s'éduquer, de comprendre un peu les véhicules d'investissement, la fiscalité. On vient d'avoir une belle conférence de Jean-Philippe Jonca sur la fiscalité, comment on peut optimiser sa situation. Donc le groupe sert vraiment à ça et il y a des beaux échanges là-dessus.
Et qui visite le site? Qui est membre du groupe?
Alors, les statistiques, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur la page Facebook. Je dirais que c'est entre 25 et 45 ans, la population.
C'est parce qu'ils t'ont vu en T-shirt, ça.
Généralement, ils sont en couple avec des enfants.
C'est un détail.
C'est ça. donc, c'est ça, je dirais que ça. Mais évidemment, il y a de tout. Il y a des nouveaux arrivants, des gens qui sont à la retraite, des professionnels qui travaillent au gouvernement, des entrepreneurs. C'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a une variété. Puis ça amène aussi les questions des gens. Ça amène aussi des réflexions. Puis c'est sur des choses qu'on peut-être on penserait pas et c'est ça qui est le fun.
D'accord. Il y a eu transformation, évolution en 5 ans. Et comment le groupe L'argent ne dort jamais s'est transformé, selon toi?
Ben c'est sûr que l'entraide a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont rajouté leurs amis, leurs familles. Puis des fois, les gens n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont trop de membres de leur famille dans le groupe, malheureusement. Donc, ça fait en sorte que ben, les nombres de questions qu'il y a dans la page, ben, c'est exponentiel. Donc, on essaie de filtrer pour garder le contenu le plus intéressant possible. Mais le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, ça demande la gestion. Fait que plus de gestion. Mais on espère que les gens aiment quand même le contenu, restent, viennent visiter le site. puis que ça continue à grossir. Le but, c'est vraiment d'aider le maximum de gens, puis que ça, puis rendre le sujet moins tabou au Québec.
Une journée comme celle que tu organises, celle du 14 avril, en fait, les sujets, tout ça, le thème central, c'est la liberté financière?
Exactement. Donc, c'est dire, c'est quoi les moyens que je peux utiliser? Quelles sont les actions concrètes que je peux faire pour éventuellement atteindre ma liberté financière ou du moins aller vers la voie de la liberté financière. Donc, vous avez des gens ici sur l'immobilier, vous avez des entrepreneurs, vous avez l'investissement boursier. Donc, tout ça, c'est des façons de faire travailler son argent, mais surtout d'aller vers, justement, l'atteinte de sa propre liberté financière.
Au fil de tes expériences personnelles et aussi en groupe et comme enseignant au Collège Montmorency, est-ce que ta définition de la liberté financière s'est transformée?
Oui, c'est sûr que la ressource la plus rare, c'est, on le sait, là, c'est le temps. Donc ma définition elle a changé, parce qu'au début, j'avais l'impression que l'enrichissement nous amenait du bonheur, mais en réalité, l'argent est seulement un outil vers la liberté, mais une liberté personnelle, la liberté de voyager, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire, donc d'être là aujourd'hui, d'organiser des événements sans forcément avoir le souci de l'argent derrière ou des finances. Oui, l'argent et les finances sont importantes parce que c'est un levier, mais au final, c'est ce qu'on fait de notre temps puis, qui est important.
OK. As-tu des anecdotes avec des membres que tu as pu justement amasser au fil du temps, soit des membres du groupe qui ont eu un sursaut important ou des prises de conscience qui fait que ça tire une fierté?
Bien, c'est sûr que je reçois des témoignages pratiquement quotidiennement. J'ai pas forcément d'anecdotes précises, mais les gens qui découvrent la page souvent partaient du fait qu'ils étaient néophytes, s'intéressaient pas du tout à l'argent. Puis ça, c'est ma plus grande fierté, c'est du jour au lendemain, juste en suivant les autres, puis en se posant la question, mais pourquoi les autres font, investissent, pourquoi les autres prennent action et moi pas? Puis juste de voir le passage à l'action des gens, c'est une fierté, mais l'anecdote, c'est que souvent, ça prend juste une page, finalement, pour faire une différence.
La liberté financière, ça s'acquiert à quel âge?
À n'importe quel âge, il n'est jamais trop tard. On peut commencer très jeune à se bâtir ça. Moi, j'ai des jeunes qui étudient ici au Collège Montmorency, qui sont déjà allumés, qui mettent déjà de l'argent dans leur CELI, qui attendent leurs 18 ans pour mettre leurs 8 000 $ dans leur CELI app. Ça, c'est motivant de voir des jeunes comme ça. Puis il y en a d'autres que je sais que ça ne les intéresse pas du tout. Donc, on passe à un autre sujet. Mais je sais que ça va les rejoindre plus tard. Ils vont avoir une prise de conscience. Puis chacun évolue selon son parcours.
Youssef, j'aimerais qu'on parle maintenant de ta carrière d'enseignant. C'est pour ça qu'on est au Collège Montmorency en direct. Le cours que tu donnes spécifiquement, c'est lequel?
Alors, je suis un prof d'administration. Donc, les étudiants ici peuvent s'inscrire à deux programmes en administration. C'est des techniques, soit en comptabilité, soit en gestion de commerce pour les gens qui ont un peu plus la fibre entrepreneuriale. Donc, moi, je suis plus reconnu comme prof de finance. Donc, je donne des cours de finance personnelle, finance d'entreprise, des cours de comptabilité, de fiscalité. Et on a d'autres profs en administration qui touchent plus le volet marketing, ressources humaines, droit des affaires, etc. Moi, j'enseigne ici depuis 2010. Donc là, j'entame ma 14e année. Et chaque année, je rencontre des étudiants différents. Et c'est plaisant comme métier.
Et les étudiants qui s'inscrivent, c'est un cours facultatif de ce que je comprends?
En fait, ceux qui s'inscrivent au programme de technique, donc si vous avez des enfants qui veulent s'inscrire vraiment en gestion, ils peuvent choisir un de ces deux programmes-là de 3 ans. Sinon, pour ceux qui font plus sciences humaines ou qui étudient dans d'autres programmes, ils ont la chance de prendre un cours optionnel de finances personnelles qui se donne parmi la liste de tous les cours qu'on a presque tous pris, là, espagnol, gestion du stress ou des cours optionnels comme ça. Donc, les jeunes peuvent s'inscrire aussi de façon facultative à ces cours-là. Mais j'en rencontre pas beaucoup. Là. Je rencontre peut-être 140, 150 étudiants par année. Puis là, vous êtes dans un collège qui accueille 9 000 étudiants. Donc là, ma contribution est très minime par rapport aux finances personnelles. personnel par rapport à la population.
Et ceux qui ont leur diplôme d'études collégiales à Montmorency, qui ont étudié dans tes cours...
Toi aussi, tu as étudié à Montmorency. Hein?
Oui, j'ai étudié pas mal en café étudiant, radio étudiante et Agora 102.
Mais ça te rappelle des souvenirs?
Oui, ça me rappelle. J'ai commencé en sciences pures, mais j'ai bifurqué tout simplement pour aller chercher le diplôme sciences sociales par la suite. C'était un parcours peut-être moins forçant, mais je me suis rattrapé. Mais la vie de collège, je me souviens c'était fascinant. Ouais, ouais, ouais. Juste pour te dire comment je suis vieux, il y avait Martin Petit.
Ah ouais, hein?
Il y avait Michel Courtemanche, ouais, Claude Legault. Ouais, qui faisait les beaux
jours. Il y a une salle au nom de Claude Legault ici.
Ouais, ben oui, quel acteur incroyable. Mais ces années-là, c'était l'année de l'impro. L'impro débutait et c'était des stars, des monstres de l'improvisation. Ah ouais, là. Alors, Youssef, maintenant, les étudiants qui ont suivi tes cours, règle générale, qu'est-ce qu'ils font comme choix de carrière, métier ou profession?
Oui, donc il y en a qui se dirigent plus en comptabilité, plus en finance. Donc, j'ai d'anciens étudiants que j'envoie devant moi là, qui ont participé. Tu as même un employé de ta firme qui est un ancien de mes étudiants. Donc, il y en a qui se dirigent plus dans la filiale finance-comptabilité. Il y en a qui vont se diriger plus en marketing, ressources humaines, donc plus le volet gestion. Donc, c'est un peu ça le but, c'est de donner le goût aux jeunes de continuer leur éducation à l'université, d'aller chercher des permis s'ils veulent travailler en assurance ou en services financiers pour faire carrière dans le domaine.
Et maintenant, tu as tellement d'activités en plus d'être enseignant, organiser ce groupe-là. Éduc Finance, est-ce que c'est un rejeton de l'argent ne dort jamais?
Ben, je le fais en parallèle. Donc, comme j'ai dit, j'ai des modérateurs pour la page de l'argent ne dort jamais, donc ça se gère relativement bien, disons. Mais Éduc Finance, j'essaie justement d'aider les gens le plus que je peux pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, j'offre des services depuis quelques années là, pour ceux qui veulent se former, qui veulent vraiment un programme plus... disons, structuré au lieu de juste apprendre. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps à vouloir lire des livres, podcasts, etc. Ça peut prendre des années avant de voir le fruit des efforts qu'on met. Donc, j'essaie de rendre le parcours plus rapide pour les gens qui veulent apprendre rapidement puis qui veulent des outils concrets. Donc, c'est ça qui donne des résultats généralement.
Magnifique. Éduc Finance, donc c'est un site web, mais c'est aussi une application.
Exactement. Donc c'est vraiment une plateforme où les gens retrouvent toutes les ressources nécessaires pour la gestion de leurs finances et leurs investissements.
D'accord. Et le holding, Youssef Gelash Inc., s'en vient bientôt?
Bientôt, oui.
Youssef, on est confrères à Radio-Canada, à l'émission Pénélope. Et puis là-dessus, je veux souligner ton apport incroyable. Les gens de l'émission Pénélope à ICI Première nous le disent, on en est bien fiers. Seconde part de marché, Montréal, l'émission Pénélope, c'est quand même quelque chose. Et puis là, ça fait bientôt 2 ans hein, qu'on participe. Ça passe très, très vite.
Vraiment. Donc, ben, je suis très fier de faire la chronique avec toi là, chaque deux mercredis.
C'est ça.
Ou un mercredi sur deux. Puis vraiment, c'est très, très le fun de travailler avec toi, Fabien. J'adore ça. J'apprends en t'écoutant. Donc c'est toute une collaboration pour moi.
Vraiment, c'est réciproque, mais c'est surtout qu'on touche à toutes sortes de sujets. Et là-dessus, je pense que ça nous donne aussi, ça nous nourrit pour faire d'autres choses. Hein?
Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi.
En terminant, Youssef, je veux qu'on fasse le tour des exposants, des conférences de cette journée-là pour montrer vraiment qu'il y en a pour tous les goûts et qui peuvent aussi servir tous les intérêts.
Ouais.
Alors, commençons avec les conférenciers.
Oui, donc j'ai essayé de varier. Chaque année, je fais ça. Puis si vous avez des suggestions de conférenciers à avoir, je suis preneur. J'essaie d'avoir des thèmes un peu différents. Donc, on a eu une conférence de Sophie Bernet le matin sur l'immobilier. On a eu Jean-Philippe Jonca sur la fiscalité. Et cet après-midi, donc à 13h, je vous invite à aller écouter Jean-Sébastien Pilote, le fameux alias jeune retraité, qui va plus parler du mouvement FIRE, liberté financière. Et à 14h, il y a François qui va parler d'investissement boursier avec l'analyse technique, le fameux day trading. Donc ça risque d'être super intéressant. Donc ça, c'est pour ce qui est des conférenciers. Donc 4 conférences durant la journée pour les gens qui se déplacent.
Génial. Et dans les exposants, on a toutes sortes de sujets. Je voyais qu'il y a du day trading, mais il y a aussi de la planification financière. Et quoi d'autre?
Ouais, donc planification financière, j'ai même des notaires parce que c'est important d'atteindre la liberté financière, mais c'est important aussi de sécuriser notre patrimoine, puis de léguer nos biens s'il y a un décès ou en cas d'inaptitude. Donc notaires, des gens de l'immobilier, des gens au niveau du crédit, il y a Raymond Chabot et Mysopédia qui sont là. Plan A pour comparer les forfaits Internet, au niveau de la gestion budgétaire. Donc j'essaie d'avoir vraiment des gens un peu de tous les sujets en lien avec les finances.
Il y a plusieurs auteurs. J'ai vu Béatrice Bernard-Poulin, Jean-Sébastien Pilote avec le jeune retraité, Nicolas Bérubé et Carmen Kong aussi.
Ah oui, exactement.
Elle investit.
Ouais. J'en oublie, c'est sûr, là, mais j'invite les gens à vraiment essayer de suivre la page pour justement ne pas manquer, parce que ça a été complet depuis une semaine. Il y a des gens qui ont malheureusement pas pu se procurer un billet, donc il faut se prendre d'avance. Je vous avertis les prochaines années, là, parce que ça part vite.
Youssef, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir au Balado Le Planif.
Cool. Puis on peut demander peut-être aux gens.
Oui, merci, Youssef.
Merci à tous.
Planifiez mieux avec le Balado Le Planif.
Jonathan Terrien, planificateur. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Fabien.
Et aujourd'hui, on va se dévoiler un peu plus parce qu'on est tous les deux des étudiants du Collège Montmorency, ce qui fait qu'on a une piqûre. Moi, c'est la piqûre de la radio ici, au Collège Montmorency. Et toi, tu étais étudiant en administration, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, mon histoire a commencé ici, au Cégep Montmorency. En fait, je terminais le secondaire, j'ai assisté à une journée porte ouverte et j'ai assisté à un cours là, en assurance de personnes à ce moment-là. Et demande-moi pas pourquoi, mais j'ai trippé. Et c'est là que mon parcours a commencé. Là, j'ai poursuivi une technique en assurance services financiers, dont d'ailleurs Youssef a été un de mes profs.
OK. Puis on va y aller, on va continuer. Il était comment comme prof?
En fait, Youssef nous a donné plusieurs cours, mais de ce que je me rappelle de Youssef, on était à ce moment-là au printemps érable. Et donc, on était en grève ici au Cégep Montmorency et Youssef nous donnait nos derniers cours de technique. On avait eu un laissez-passer pour finaliser nos cours. Et les derniers cours que Youssef nous a donné, bien, c'était au Centropolis, juste à côté d'ici. Il nous donnait des cours sur les terrasses dehors et ça avait été un printemps où il avait fait super beau, super chaud, mais non, c'était un très bon prof, plus jeune que la majorité des autres profs aussi, donc je pense qu'il arrivait à comprendre où on était dans notre vie, mais ça a été une super période pour moi, là.
OK. À partir donc du Collège Montmorency, c'est le thème, en fait. C'est le cheminement d'un étudiant de Montmorency qui devient planificateur, qui devient associé en gestion de patrimoine. Mais qu'est-ce qui s'est passé vers la fin de tes cours en justement administration avec Youssef?
Bien, en fait, ça m'a permis d'avoir un diplôme collégial là, en assurance et services financiers. Puis à ce moment-là, bien, je me suis trouvé un emploi chez Desjardins, donc dans une caisse Desjardins où j'ai commencé là, comme caissier. Puis j'ai évolué. J'ai eu l'opportunité d'avoir une promotion là, presque à chaque année. Donc, je me suis occupé là, des marges de crédit étudiantes, ensuite de ça, financement hypothécaire. Et finalement, je me suis occupé là, des plus gros comptes d'investissement. Donc, Desjardins était une super école pour moi. Ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes. Puis c'est à ce moment-là qu'on s'est connus.
Ben oui. Alors, chez Desjardins, tu as fait un peu tes classes en touchant à tout. Carte de crédit, marge de crédit. Est-ce que tu touchais déjà à la planification financière?
Pas tellement à ce moment-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté. Ça a été une bonne école pour moi, mais je devais proposer. En fait, j'étais un vendeur de produits, disons, à ce moment-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'emphase sur la planification financière. Et en parallèle, durant mes années chez Desjardins, je complétais mes études à l'université en planification financière. Donc, c'est ce que je voulais faire dans la vie. C'est pas nécessairement ce que je faisais à ce moment-là. Puis, je pense que j'ai pris le téléphone au bon moment puisque tu cherchais quelqu'un, justement, pour t'appuyer dans la planification financière de tes clients et ça me mène où je suis aujourd'hui.
Oui, exactement. Mais parlons un peu de, justement, le certificat de planification financière parce que le cheminement, il y en a quelques-uns. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène au diplôme, qui mène finalement à l'accréditation de l'Institut de planification financière. Tu as fait le cheminement par le certificat, c'est ça? À quoi ça consiste?
En fait, oui, j'ai commencé avec un certificat en planification financière à l'université. J'ai ensuite fait un certificat en administration, puis j'ai complété avec un certificat en entrepreneuriat. Donc, ça m'a donné un bac par cumul. Une fois le bac par cumul complété, je ne pouvais pas nécessairement le pratiquer. J'ai dû aller compléter différents permis, dont le permis en épargne collective et le permis en de conseiller en sécurité financière là, auprès de l'AMF. Mais c'est quelques années plus tard, là, j'ai commencé à travailler avec toi. J'ai fait mes dents là, quelques années, puis je suis allé compléter avec l'Institut québécois de planification financière là, mon titre de planificateur financier. Donc, ça s'est fait après, disons, mon parcours universitaire. Là.
Alors, le cheminement, parce que lorsqu'on a fait le certificat universitaire, on doit s'inscrire à l'IQPF, maintenant qui s'appelle IQ, le Q est enlevé, ça fait l'Institut de planification financière. On suit le cheminement, mais c'est pas terminé, là. Une fois qu'on a le certificat, on n'est pas automatiquement planificateur. Comment ça?
Non, exactement. En fait, c'est un titre professionnel, là, le titre de planificateur financier. Donc, en fait, tous les cours universitaires, bien, tu parlais de cheminement, c'est une préparation, finalement, à l'examen pour devenir planificateur financier. Un peu comme on le voit dans d'autres professions, là, lorsqu'un comptable termine ses études à l'université, il doit aller faire son titre de CPA. Donc, c'est un peu la même chose pour un planificateur financier. Donc, c'est vraiment toute une préparation. Moi, je pense que c'est un acquis qui est super important, là, d'avoir des études universitaires. Ça nous apprend plein de bonnes choses, mais je dis souvent à la blague que j'ai étudié plus après mes études universitaires que pendant, puisque le cheminement, bien, c'est ça, se poursuit. Il y a beaucoup de cours à faire avec l'Institut de planification financière qui mène ultimement à l'examen. Mais c'est une fois que l'examen est passé que là, vraiment, on peut avoir les lettres PLFIN, là, planificateur financier, à côté de notre nom.
Mais parlant de l'examen, est-ce que tu as trouvé que c'était quelque chose de costaud ou n'importe qui peut se présenter là puis réussir l'examen les doigts dans le nez?
Non, je pense pas. Moi, en fait, j'ai mis énormément de temps d'études. Puis il faut savoir que le rôle du planificateur financier, c'est vraiment d'être au centre de la stratégie avec ses clients et c'est de toucher, en fait, aux 7 champs de la planification financière, comme par exemple la retraite, l'investissement, la fiscalité, tout ce qui est protection là, de la situation financière d'une personne. En fait, il y a certains éléments, des fois, qui vont sortir de notre champ d'expertise, là, par exemple en fiscalité, quand on vient avec des cas très complexes. Donc, notre rôle, c'est vraiment, disons, d'appuyer le client. Puis où je m'en vais avec ça, c'est que ben durant l'examen ou la préparation qui menait à l'examen, c'était vraiment un cas réel. Donc, on avait un cas réel à l'examen, puis c'était plutôt de bien gérer notre temps parce que dans la vie, ben il y a un certain moment donné où on fait des recommandations, mais le reste du travail se fait par un notaire, un comptable ou un fiscaliste. Donc, moi, j'ai trouvé que l'enjeu, c'était vraiment de rassembler vraiment toute la matière qui touche à tous les champs de la planification financière, de synthétiser tout ça pour faire des recommandations claires. Et à ce moment-là, bien, c'était par écrit dans l'examen. Là. Non, ça a été quand même je dirais, intense, là, cet examen-là. Puis on a notre note aussi quelques mois plus tard. Donc là, tu reçois un courriel qui dit « Ta note est disponible, tu te connectes en ligne, t'as les genoux qui tremblent, puis finalement, ben, tu vois la mention réussite. » Donc moi, j'étais très content à ce moment-là, mais c'était pas évident.
Mais ça change quoi du jour au lendemain de dire ben, avant, j'étais conseiller ou représentant en fonds d'investissement ou conseiller en valeur mobilière, puis maintenant, je suis planificateur. Ça change quoi dans le feeling, dans le sentiment, puis dans le quotidien avec les clients?
Oui, bien, en fait, notre réelle valeur ajoutée dans notre travail, c'est pas nécessairement de proposer un produit de placement ou de proposer un produit d'assurance. Je pense que n'importe quel conseiller qui est allumé dans une structure autonome, une structure de courtage, va être en mesure de proposer un portefeuille d'investissement de qualité à un client. C'est plutôt la suite là, qui prend du temps, donc de vraiment assurer ou proposer une ligne directrice au client à travers un plan financier, comme je disais tout à l'heure, de toucher à tous les champs de la planification financière. Donc, vraiment de s'assurer qu'il y a une coordination à travers toutes les recommandations qui sont faites. Mais aujourd'hui, les gens recherchent des conseils. Les gens veulent avoir un plan financier, veulent savoir où est-ce que je vais être dans 3, 4, 5, 10 ans. Et oui, ça passe par un bon portefeuille d'investissement, des bons produits à l'intérieur d'un portefeuille d'investissement, mais ça vient beaucoup plus, je pense, de la planification financière qui en suit, là.
OK. Bien, dans un plan financier comme tel, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? À quoi les gens peuvent s'attendre quand ils démarrent cette démarche-là et puis ils ont un document, on leur révèle des trucs? C'est quoi qu'il y a dans le plan?
Oui, bien, il y a beaucoup de choses. En fait, le processus débute vraiment par une cueillette d'informations. Ça a d'ailleurs été un de mes rôles principaux avec toi dans les débuts où je rencontrais tes clients pour recueillir l'information. Donc, on pose énormément de questions. Puis ensuite de ça, nous, on effectue un travail d'analyse, un travail de projection et de recommandations qu'on vient présenter aux clients. Mais souvent, un plan financier va commencer avec un bilan, donc une photo de sa situation financière aujourd'hui. Puis le plan, ultimement, c'est un GPS financier. On part ici là, du Cégep Montmorency, on s'en va au centre-ville de Montréal. Ben moi, je vais certainement mettre mon GPS. C'est un peu la même chose dans un plan financier. Puis les réponses qu'on peut obtenir, ben, à quel âge on peut cesser de travailler? Pas nécessairement la retraite, mais l'indépendance financière. Ensuite de ça, combien est-ce qu'on peut dépenser à chaque année? De quel compte on doit décaisser pour maximiser sa fiscalité? Mais c'est pas juste un plan de retraite non plus. Ça permet aussi de projeter certains projets à court et moyen terme, comme envoyer ses enfants à l'école privée, financer les études postsecondaires ou s'acheter une résidence secondaire. Donc, on essaie de toucher à ça, mais on essaie aussi de couvrir des points qui sont un peu plus délicats, comme ben, qu'est-ce qui arrive en cas d'invalidité, en cas de maladie, en cas de décès, comment ça peut affecter la famille. Donc, on tente vraiment de toucher à tout ça.
Mais dans la vie, si ça se passe pas comme c'était écrit dans le plan, c'est quoi le rôle du planificateur à ce moment-là? Si, je sais pas, il y a une vie de couple qui est représentée dans le plan avec une partie de sa vie amoureuse, familiale avec une personne, il y a une séparation ou encore on gagne à la loto ou pire, on fait faillite. Qu'est-ce qui arrive du plan?
Oui, ben tu m'apportes sur une piste intéressante parce que c'est sûr qu'on peut pas tout prévoir. On en a eu des belles preuves dans les dernières années. C'est passé énormément de choses. Donc, c'est important de remettre son plan à jour, là, s'il y a des événements majeurs, comme tu fais mention. Sans ça, je dirais qu'au 3 à 5 ans maximum, il faut remettre son plan à jour, puisqu'on va utiliser différentes hypothèses là, dans le plan financier, des hypothèses généralement assez conservatrices, comme par exemple sur le taux de rendement là, des placements. On préfère mettre une croissance un peu moins élevée. Puis si on a une croissance réelle qui est un peu plus élevée, bien, ce sera tant mieux. Donc, c'est important de remettre le plan à jour aux 3-5 ans environ.
OK. Suite à des événements majeurs, donc, on peut faire des modifications dans le plan pour les intégrer.
C'est exactement ça.
Une liste d'événements majeurs à considérer?
L'achat, la vente d'une entreprise, ça peut être la naissance, par exemple, d'un nouvel enfant, un changement de carrière.
Ou des jumeaux ou des triplés.
Ça peut aussi être ça, de recevoir un héritage auquel on ne s'attendait pas. C'en est quelques exemples.
C'est bon, Jonathan. Oui, il y en a le décès, c'est sûr, la maladie, et tout ça fait en sorte que le plan peut être perturbé, et c'est d'avoir de l'ouverture. On a parlé du cheminement du planificateur financier, du collège à l'université avec le certificat, ensuite les examens de planification financière. Et toi, de ton côté, tu es allé chercher le permis de sécurité financière, c'est l'assurance de personne, et l'assurance invalidité, assurance salaire qu'on appelle. Puis les fonds d'investissement, le titre officiel représentant l'épargne collective. Mais maintenant, tu es conseiller en gestion de patrimoine. C'est quoi ça, la différence avec l'épargne collective?
En fait, ça permet d'avoir accès à un plus grand nombre de produits financiers pour les clients. Donc, j'ai suivi le cours sur les valeurs mobilières au Canada, ce qui me permet aujourd'hui de proposer aux clients, oui, des fonds d'investissement, mais aussi des fonds négociés en bourse, des actions à la pièce, certains produits sur le marché dispensé, entre autres. Donc, c'est vraiment une licence en investissement qui permet d'avoir accès à un coffre à outils de stratégie qui est plus grand, qui permet de mieux conseiller aussi les clients ultimement.
C'est un petit peu décourageant pour l'étudiant qui est au collège ici, l'étudiant de Youssef qui se dit, bien, je veux travailler là-dedans. Il me semble qu'il y a des couches, il y a plein de cours, il y a plein de permis. Puis, ultimement, ça mène à quoi si on veut aller chercher des certifications additionnelles de ce que tu as justement obtenu?
En fait, c'est sûr que ça peut prendre quelques années. Il ne faut pas nécessairement voir ça comme une grosse montagne. Moi, quand j'étais ici, là, au Cégep Montmorency, je m'étais pas tout posé ces questions-là d'un seul coup. En fait, je savais même pas nécessairement combien de temps ça allait me prendre puis tout le parcours. Mais moi, j'ai appris énormément là, à travers tous les cours là, que j'ai suivis. Puis en parallèle, le fait de travailler dans le domaine, le fait de me coller aussi sur un conseiller d'expérience comme toi, bien, ça me permettait d'appliquer ce que j'apprenais dans mes cours au cégep, à l'université, dans les différents permis que j'ai suivis. Ça me permettait d'appliquer ça dans mon travail au quotidien, donc de devenir un meilleur conseiller. Mais ça se fait par étapes, puis chaque étape est tout aussi pertinente.
Est-ce qu'il t'en reste à suivre des cours ou des certifications?
Bien, certainement, je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Le but n'étant pas d'avoir un paquet de lettres là, qui finit plus à côté de son nom, mais juste de maintenir ses connaissances à jour. Là. Donc, avec les permis qu'on a déjà, on a déjà de la formation continue à faire. On a des périodes, un nombre d'heures là, à faire. Mais pour ma part, j'aimerais bien aller chercher le titre de CIM pour justement m'ajouter une couche d'expertise additionnelle que je pourrais utiliser avec mes clients.
Oui, alors CIM qui signifie gestionnaire de placement agréé. Bien, ceux qui peuvent justement réclamer le titre de gestionnaire soit CIM ou CFA, qui est l'analyste financier agréé. Et là-dedans, c'est quoi le quotidien? Qu'est-ce que ça change à être CIM ou pas?
En fait, mon travail ne changera pas pas nécessairement demain matin. Je pense que ça va me permettre d'avoir un petit peu plus de connaissances ou de comprendre peut-être encore mieux la mécanique derrière les investissements avec lesquels on travaille, puisque généralement, bon, le titre de CIM est détenu par un gestionnaire de portefeuille qui va, lui, gérer, par exemple, des fonds d'investissement, des fonds négociés en bourse. Donc, moi, dans ma pratique de tous les jours, je me considère comme un planificateur financier et je travaille avec des gens qui ont le titre de CIM, des gens qui ont le titre de CFA, entre autres. Ça va tout simplement me permettre d'avoir plus de connaissances puis d'avoir une meilleure compréhension de ce que je fais au quotidien.
Okay. Mais je pense aussi, dans la gestion du portefeuille client, on a une autorisation de simplifier les tâches. Hein?
Oui, effectivement. Puis ça nous permet de pouvoir travailler avec ce qu'on appelle une plateforme discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on peut se bâtir certains portefeuilles d'investissement, des modèles de portefeuilles d'investissement qu'on peut proposer à nos clients. Et ensuite de ça, lorsque vient le temps de faire des rééquilibrages, d'ajouter, de retirer certains investissements, ça permet de le faire de manière plus efficace pour un plus grand nombre de clients aussi.
OK. Alors, une transaction qui se répercute partout à la fois dans tous les portefeuilles.
C'est exactement ça. On clique sur un bouton. On veut changer, par exemple, une position, là, une entreprise, là, ABC Inc. Là, on veut la changer dans le portefeuille de tous les clients. Bien, on pèse sur un bouton et cette position-là peut être augmentée, baissée, liquidée. Alors que lorsqu'on n'est pas sur une plateforme discrétionnaire, bien, faut traiter en fait les transactions là, client par client.
Ouais. Alors, pour terminer le parcours d'un étudiant en administration qui devient planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé dans ton parcours si tu avais la possibilité?
C'est une bonne question. Je suis assez fier de mon parcours. Puis sans te lancer des fleurs, bien, une des choses que je suis très fier, c'est d'avoir rejoint ton équipe là, il y a plusieurs années. Pour moi, ça a été un changement majeur là, dans ma carrière. Puis je recommande vraiment à tout le monde qui veut faire carrière comme planificateur financier de se coller à une équipe, à des conseillers d'expérience. C'est beaucoup plus facile d'apprendre, d'être encadré, de bien servir ses clients ultimement. Est-ce que je changerais quelque chose? Probablement qu'il y a quelque chose que je changerais, mais il n'y a rien qui me vient en tête, je te dirais, au moment présent.
Ben c'est bon, Jonathan. Ben moi, je te dis, je ne change rien. C'est super comme ça. Merci.
Merci beaucoup.
La question du beau-frère de Jean-Philippe Duplateau. Mon beau-frère a lu à plusieurs reprises qu'en mai de chaque année, il vaut mieux vendre tous ses placements et les racheter en octobre, car habituellement, les marchés se replient durant l'été. Sell in May and go away, dit-on. Est-ce un bon conseil? Non. Je pourrais juste arrêter ici, mais pour Jean-Philippe et les autres, je vais détailler un peu. Ben oui, l'adage « sell in May et go away » est très populaire et ça explique certains de vouloir vendre tous leurs placements, même si on n'a pas besoin d'argent, même si l'horizon avant le décaissement est de plus de 15 ans. Cette phrase est populaire parmi les investisseurs boursiers. Cependant, cette stratégie qui consiste à vendre ses actions en mai pour les racheter au mois d'octobre, c'est pas aussi infaillible qu'elle le paraît. En finance, d'ailleurs, il faut toujours se méfier des slogans et des proverbes populaires. Un examen des données historiques et des performances de certains secteurs démontre que vendre en mai peut souvent mener à des pertes d'opportunités très importantes. Alors, historiquement, le principe de « sell in May, go away » s'appuie sur l'observation que les marchés financiers tendent à être moins performants durant les mois d'été. Cependant, cette tendance n'est pas aussi marquée qu'on pourrait le penser. Selon une étude de la Stock Traders Almanac, le rendement moyen du Dow Jones de novembre à avril serait supérieur à celui de mai à octobre, mais la différence n'est pas suffisamment significative pour justifier le désinvestissement total. On se fie sur ça alors que le Dow Jones ne représente que 30 compagnies sur un environnement de 60 000 à l'échelle mondiale, sans compter le marché privé, sans compter un paquet d'autres solutions d'investissement. Une analyse des rendements du SP500 sur plusieurs décennies montre que de nombreux étés ont fourni des performances robustes. Par exemple, durant l'été 2020, pas si loin que ça, en pleine pandémie, le SP500 a enregistré une hausse significative démontrant que des facteurs exceptionnels peuvent contredire les tendances de saison qui, avouons-le, sont un peu simplistes. Certains secteurs tendent à mieux performer, même lorsque les indices mondiaux, comme le SP500, connaissent des baisses. Ces secteurs résilients offrent des opportunités de croissance même pendant les périodes qui sont traditionnellement faibles. Les secteurs comme la technologie, qui a souvent défié les tendances baissières générales du marché, les entreprises de technologie, en particulier celles liées à Internet, logiciels, intelligence artificielle, continuent de croître en raison d'innovations constantes et l'adoption accélérée de solutions numériques. On peut parler aussi du secteur de la santé, qui est généralement moins sensible aux fluctuations économiques saisonnières. Les entreprises pharmaceutiques, biotech et celles liées aux soins de santé tendent à maintenir des performances stables grâce à la demande constante pour des produits de santé et innovations médicales. Il y a des produits de consommation courante aussi qui montent, même durant les marchés baissiers, comme les aliments, boissons, articles ménagers. Ils ont tendance à être moins affectés par les conditions économiques parce que la demande, elle est constante, sans compter aussi le prix de l'essence. Ah ben oui, les pétrolières font de l'argent aussi, peu importe la saison, et parfois même le prix augmente en été, ce qui augmente leur profitabilité. Il y a des exemples très concrets où Sell in May et Go Away ne fonctionnent pas. On va prendre l'été 2021. Le secteur technologique a vu une augmentation remarquable malgré un contexte incertain. Des entreprises comme Apple, Microsoft ont enregistré des gains impressionnants grâce à une augmentation de la demande pour les technologies de travail à distance. Alors, durant les périodes de récession ou de ralentissement économique, il y a des entreprises qui sont aussi très solides, comme Pfizer, Johnson & Johnson, qui ont souvent vu leurs actions se stabiliser et même croître, profitant de la nature indispensable de leurs produits. Alors, il est essentiel pour les investisseurs, comme Jean-Philippe, de comprendre que le dicton « sell in May » et « go away » ne doit pas être suivi aveuglément. Je crois que pour les traders, les day traders, ceux qui n'ont pas d'objectif à long terme, mais vraiment l'enrichissement à court terme, spéculatif, ben là, il y a peut-être une petite tendance, là. Mais les performances passées ne sont pas toujours indicatives des résultats futurs. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer les performances du marché pendant les mois d'été. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut focaliser sur les données fondamentales des entreprises, rester attentif aux conditions de marché. Alors là, les investisseurs peuvent trouver des opportunités tout au long de l'année, peu importe le mois, la saison. Ainsi, une approche beaucoup plus nuancée, basée sur la diversification, peut souvent s'avérer beaucoup plus fructueuse que le suivi d'une règle, d'un dicton ou encore carrément d'un mythe saisonnier simpliste, plus près du proverbe que d'une théorie. De plus, le capital investissement privé, les obligations, les billets structurés, les fonds FNB qui utilisent des options peuvent même offrir des gains substantiels pendant que les principaux indices boursiers se replient. Ça se termine ainsi. Merci à nos invités, Youssef Gelache et Jonathan B. Terrien, planificateur. Ici Fabien Major. À bientôt.